va aborder ce regard que saint Augustin porte sur les psaumes comme lieu de la prière de louange. Saint Augustin a écrit entre autres un commentaire des psaumes qui s'appelle Enerationes in Psalmos. Enerationes in Psalmos, ça veut dire des réflexions sur les psaumes. Et vous le repérez dans ce texte à la mention entre parenthèses à chaque fois de in PS, ça veut dire in psalmos, sur les psaumes. Et donc les citations, pour la plupart, sont tirées de ce livre. La première qu'on va lire, notre exercice ici-bas, ce doit être la louange de Dieu, car notre bonheur dans l'éternité, ce sera la louange de Dieu. Donc vous voyez qu'il distingue ici le bonheur dans l'éternité, qui est louange, et puis. Il dit exercice ici-bas, c'est-à-dire c'est un peu plus laborieux. Ici-bas, c'est plus volontaire, c'est plus à mettre en œuvre par nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui doit nous préoccuper parce que fondamentalement, c'est notre destinée éternelle. Pour dire deux mots, parce que j'ai sauté une partie de l'article, pour dire deux mots sur les psaumes et saint Augustin, on peut dire ceci, le psautier a nourri saint Augustin dès les premiers temps de son retour à l'Église. Et c'est encore ce livre qui l'a accompagné dans ses derniers combats. Encore catéchumène, il lit les psaumes avec enthousiasme. Quel cri, mon Dieu, j'ai poussé vers toi en lisant les psaumes de David. Et puis sur son lit de mort, c'est avec les psaumes qu'il s'adresse à Dieu. Comme le rapporte son ami et biographe Posidius, il avait fait faire des copies de psaumes pénitentiaux. Pénitentiaux, tiens. Et de son lit, pendant sa maladie, il jetait les yeux sur ses copies placées contre la muraille. Il les lisait en versant des larmes abondantes et continuelles. Alors, on va regarder différents aspects de ce que saint Augustin a pu tirer en utilisant les psaumes sur la louange. Premier aspect, la louange de l'homme nouveau. Quant à l'importance de la louange, ou pour mieux dire, la nécessité de louer Dieu, Augustin y revient fréquemment. C'est, assure-t-il, l'œuvre principale de l'homme que la louange divine. C'est l'affaire de Dieu de te plaire par sa beauté. À toi, il revient de le louer par des actions de grâce. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Comme perspective, saint Augustin ne nous donne pas d'autre chemin. Il nous dit, si Dieu se présente à toi et t'attire par son amour, il te plaît, en retour, ce que tu dois lui adresser, ce sont tes actions de grâce, ce sont tes louanges. Et il dit, c'est l'œuvre principale de l'homme. Donc l'action de grâce, la louange, sont la réponse de l'homme à la grâce de Dieu. Elle se situe à sa vraie place, celle de partenaire libre d'une alliance d'amour. Mais il y a plus, louer Dieu dès ici-bas, c'est entrer déjà dans ce qui fera l'activité des bienheureux dans le royaume des cieux. Donc il y a un aspect eschatologique de la louange qui, pour Augustin, est tout à fait déterminant. Et c'est pour ça qu'il exhorte fréquemment ses diocésains à s'y exercer. Voilà une longue citation à propos du psaume 148. Notre exercice ici-bas, ce doit être la louange de Dieu, car notre bonheur dans l'éternité, ce sera la louange de Dieu. Nul ne peut devenir propre à cet avenir s'il ne s'y exerce dès maintenant. Donc vraiment, il se situe dans la perspective de la vie future, en lui disant, préparez-vous, exercez-vous, habituez-vous. C'est bien pourquoi dès aujourd'hui nous louons Dieu. Des promesses nous ont été faites qui ne sont pas encore accomplies. Alors dans l'attente, nous gémissons. Il nous faut cependant persévérer dans cette attente jusqu'à ce que s'accomplissent les promesses, que les gémissements prennent fin, pour qu'il n'y ait plus que la seule louange. Donc de temps en temps, on verra ce mot apparaître, le mot gémissement, où Augustin, non pas oppose, mais mais en regard, la louange céleste et puis la vie sur la terre qui est plus dans les gémissements, mais les gémissements est un mot qui peut s'appliquer aussi à la louange, et en particulier à la louange en langue, comme on le verra dans un passage. La louange de Dieu convient donc parfaitement à l'homme en croissance vers sa stature définitive, celle d'un amour sans limite. Quand nous verrons celui que nous aimons, notre louange sera sans fin, parce que notre amour sera sans fin. Vous voyez qu'ici, il rattache la louange à l'amour. Et pour nous, ça peut être effectivement une piste de réflexion. Si nous avons tant de mal à louer Dieu, est-ce que c'est pas parce que nous avons un amour un peu court, quelquefois, dans notre cœur? Notre louange sera sans fin parce que notre amour sera sans fin. C'est dire aussi que l'homme qui loue Dieu laisse s'exprimer en lui l'homme nouveau, l'homme dont la liberté est restaurée par la grâce. Je te le demande, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose que nous fassions, nous aussi, par l'effet de notre volonté libre? Oui, certainement, lorsque nous louons Dieu lui-même en l'aimant. En effet, tu agis par volonté libre lorsque tu aimes ce que tu loues. Tu le fais non pas par nécessité, mais parce que cela te plaît. Donc on voit bien ici qu'il raccroche la louange aussi à un acte de volonté, de liberté évidemment, mais de volonté. Ça ne va pas forcément de soi de louer Dieu, il faut le vouloir, il faut s'y exercer volontairement. Et encore une fois, il nous dit que c'est l'expression de l'amour. Nous louons Dieu lui-même en l'aimant. Tu aimes ce que tu loues. Tu le fais parce que cela te plaît. L'inclination de l'amour nous porte à louer Dieu. Voilà une première réflexion sur le fait que la louange, c'est vraiment la caractéristique du baptisé, au fond, de l'homme renouvelé dans l'Esprit Saint, et l'expression de l'amour envers Dieu. Une deuxième réflexion sur les motifs de la louange. Les motifs de la louange.